Claude, on parle d'un maillot de foot.
Qui était trop grand, une taille 10. Alors du coup, quand on l'a vu avec, on a cru qu'il était gros. Fabrice Apruzès, qui il y a 10 ans réalisait un rêve en 17 minutes, mais en même temps devenait la risée des imbéciles. Alors qu'en vrai, il n'est pas gros Fabrice, non, une bestiasse aux abdos dessinés. Tiens, allez le voir et aussi l'entendre dans France Football, où il raconte comment lui, le bisu de l'OM, qui enquillait les buts en amateur, lui, le chauffeur-livreur, auquel son patron avait accordé un congé sans solde, s'était retrouvé par un enchaînement de blessures dans un match de Ligue 1. Le 18 novembre 2012, pendant un gros quart d'heure, il avait couru, mais dans le vide, sans parvenir à marquer à Bordeaux contre les Girondins. Après, il retourna dans l'ombre, il reprit sa vie de footeux que la lumière avait touchée, belle vie minuscule, sublime à lire dans France Football, et d'autant plus essentielle que la grande histoire nous assiège. Et c'est d'ailleurs tout France Foot, entièrement consacré aux humaines légendes de l'OM, qu'il faut lire ce jour où nous revient une histoire contée si souvent, mais qui se renouvelle, celle de la Coupe d'Europe et de l'OM au feu. Car la Provence promet aux Marseillais l'enfer de Tumba. Tumba, c'est ce stade de Salonique qui sera incandescent, où le PAOK local attend l'OM dans sa furie. Et la Provence et l'équipe interrogent des joueurs français passés par la Grèce, qui racontent un club qui est une religion, dont les supporters se font tatouer les cuissons sur la lèvre, où un chef mafieux peut venir haranguer les vestiaires, et où un joueur qui ne donne pas assez se fait tabasser et arrive à l'entraînement, arcade ouverte et œil enflé. Mais bien sûr, il ne faut pas avoir peur. Dans nos pages politiques, on nous raconte un supporter de l'OM qui aime la castagne. L'opinion fait sa une sur Emmanuel Macron en campagne à portée de baffe, référence à une gifle qu'il reçut de fait en juin dernier. Vous lirez sur le site de Vanity Fair une belle enquête sur cette mystique de la foule chez Macron. Macron que l'on insulte parfois « je t'emmerde », lui avait dit Justinia, ouvrière agricole en janvier dernier, mais dont la tête d'innocent et le bagou désarment les hostilités. Ils discutent sans changer, ils se frotteraient aux gens par besoin d'être aimés. Les proches du président, me dit l'opinion, ont érigé en talisman ces plongées dans la foule, fut-elle hostile. Ils veulent rééditer la visite à Whirlpool, usine menacée d'Amiens, où en 2012, Macron, candidat, avait forcé le respect des ouvriers en leur disant qu'ils ne sauveraient pas leur emploi, mais on reconstruirait. Society est allé revisiter Whirlpool et nous dit la suite, une tristesse infinie, reprise aux échecs, désillusions. Les anciens de Whirlpool surnomment désormais Emmanuel Macron, qui est revenu trois fois, le chat noir. C'est un terme de football, celui qui porte la poisse. Marine Le Pen, qui elle aussi était allée à Whirlpool, n'est jamais revenue.
Et on parle aussi de coiffure, Claude.
Celle de Marine Le Pen, justement, dont le carré blond serait le plus célèbre de France. Dit au Monde sa conseillère presse Caroline Parmentier, qui autrefois fut pendant 30 ans journaliste à présent. Quotidien nationaliste catholique identitaire, dont la figure de proue Jean Madiran avait été pendant la guerre une plume antisémite et un ami de Maurras. Mais aujourd'hui, Caroline Parmentier est pour Marie Le Pen, Caro, une copine qui ferraille contre les traîtres, qui la trouve belle, qui demande qu'on fasse d'elle de jolies photos. Et l'on ressent bien lisant cet alliage d'extrémisme et de communication familière quasi frivole qu'on appelle le marinisme. Mais ce marinisme est également un ancrage populaire. Et vous lirez dans Sud-Ouest comment Marine Le Pen est devenue la candidate de la ruralité. À Agonac, Gentibourg de Dordogne, où l'on ne parle pas politique, où l'épicière Daniel est surnommée Mabiche, où l'on est solidaire entre villageois et même on accueille des Ukrainiens, Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour. Dans Libération, l'insoumis de la Somme, François Ruffin, constate que son mouvement a réussi à s'ancrer dans les quartiers populaires des villes, mais ne parvient pas à transformer en espérance la colère rurale. Il veut encore essayer. Lira-t-on, en campagne, les avertissements que lancent des professeurs de droit contre les projets de Marine Le Pen ? Dans Libération, Dominique Rousseau voit dans les référendums de la candidate une manière de contourner le Parlement, et plus durement encore dans les Échos, Anne Levade accuse Marine Le Pen d'être à la limite du coup d'État, si elle devait, comme elle en a l'intention, enjamber le Conseil constitutionnel pour intégrer par référendum sa priorité nationale dans nos textes fondamentaux.
Et on parle enfin, Claude, d'un regret.
Qui nous vient sur le site de Télérama, dans un des très très beaux articles qu'inspire au talent de nos journaux la mort de Michel Bouquet. Tiens, dans le Figaro, Armel Héliot vous fendra le cœur d'une phrase. Avec le temps, son visage s'était émacié et l'os affleurait sous la peau transparente. Dans Le Monde, Jean-Luc Douin et Fabienne Darge évoquent à propos de Bouquet, marchand de Montmartre, un personnage de Siménon ou d'Emmanuel Bove, et qu'on cite Bove, superbe écrivain de solitude désormais oublié, est une grâce. Vous lirez dans L'Humanité, c'est Leonardini, que la voix de Bouquet était d'un métal rare, et dans Libération, que cette voix de Bouquet vibrait du grognement de l'innommable, incapable de parler, de ne pas parler. Ça, ce sont des mots de Camille Nevers. Mais dans Télérama, donc, j'y venais. Fabienne Pascaud se désole que Michel Bouquet, qui nous avait fait saisir la folie des personnages de Molière, ne se soit jamais senti digne de jouer le misanthrope que lui avait proposé le légendaire Jean Villard. Et pour les amoureux de théâtre, ce rôle non joué, c'est le silence après Mozart, c'est la vie ordinaire après un match de football. Grâce à Télérama, je peux l'imaginer.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.